La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Duhaut et Boris Pino. Prise de son assurée ce soir par Bruno Gagnard. Réalisation signée Nicolas Berger. Ce soir, Fabienne Pascou et René Solis se font face à notre affiche L'Hôtel du Libre-Échange de Georges Feydeau, mise en scène d'Isabelle Nanty à la Comédie Française, Richard III de William Shakespeare, mise en scène par Thomas Ostermeyer à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Nous évoquerons plus rapidement Fou de bassin par la compagnie Île Utopie et L'écume des jours d'après Boris Vian au théâtre de la Huchette. Vers 21h20, Xavier Martinet nous entraînera dans le petit salon pour parler des turbulences dans les centres dramatiques nationaux. En fin d'émission, Boris Pino passera un coup de fil à Christophe Blandin-Estourné, directeur du théâtre de l'Agora, scène nationale d'Evry et de l'Essonne, pour parler de son programme pour la saison 17-18. Et puis il y aura bien sûr encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le Festival international du film de La Rochelle qui se déroule du 30 juin au 9 juillet. Direction la salle Richelieu de la Comédie Française, pour commencer avec le retour de Georges Feydeau après le très grand succès du Fil à la patte, mis en scène par Jérôme Deschamps, mais aussi du système Ribadier, monté par Zabou Bretman au Vieux Colombier. Cette fois, c'est Isabelle Nanty qui met en scène L'Hôtel du Libre-Échange, pièce en trois actes écrite en collaboration avec Maurice Desvalières, créée le 5 décembre 1894 au Théâtre des Nouveautés, soit la même année d'ailleurs que le Fil à la patte. Pour tenter de résumer l'intrigue, disons que Pinglé, entrepreneur en bâtiment, homme marié, est sous le charme de l'épouse de son ami et associé, l'architecte Paillardin. Celui-ci doit d'or découcher pour des raisons tout à fait professionnelles, mais Madame Paillardin donc succombe à la proposition de Pinglé. Les deux amants terminent leur soirée dans l'hôtel du Libre-Échange, mais Paillardin s'y trouve également pour son travail, tout comme la bonne de Pinglé, le neveu de Paillardin, qui vont aussi s'y retrouver. Et puis, comble de la coïncidence, un ami de province de Pinglé est lui aussi descendu dans cet hôtel avec ses trois filles. La mécanique infernale de Feydeau n'a plus qu'à se mettre en route.
Mais enfin, ma chère amie, qu'est-ce que tu as ?
Monsieur, que vous me rendez la vie insupportable.
Ah ben, ma chère amie, qu'est-ce que vous direz quand vous aurez comme moi 20 ans de ménage ?
Plains-toi donc, je t'ai rendu la vie très heureuse.
Et moi aussi.
Heureuse ?
Ah ben oui, parlons-en.
Mais parfaitement.
Non, tu ne me l'as pas rendue heureuse.
Si, je l'ai rendue heureuse.
Non.
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 Ah non ! Non, il n'y a pas moyen de travailler comme ça, je m'en vais. Non, mais c'est-à-dire, je me demande pourquoi je me suis mariée à monsieur. Enfin, est-ce qu'il se conduit comme un époux doit le faire ?
Oh.
Non ! Mais il s'imagine que je me suis mariée pour surveiller le ménage et garder la maison, car enfin, qu'est-ce que je suis en dehors de ça ? Rien ! Il me traite comme une quantité négligeable ! Il me laisse de côté ?
Comment ? Ma pauvre amie, vraiment, il vous laisse ? Oh, c'est très mal.
Mais non, c'est de l'exagération.
Ah, vous savez, nous avons 20 ans de ménage, monsieur Pinglet et moi. Mais si jamais mon mari s'avisait d'être comme ça avec moi,
Comment ? Vraiment ?
Elle se vante, elle se vante.
Mais enfin, ma chère amie, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que je n'aille pas ce soir à cette expertise ?
Si, si, allez-y. Que vous soyez là-bas, que vous soyez ici, je vous trouve toujours aussi éloignée.
Oh, toujours cette rengaine.
Je vous avouerai que j'attendais autre chose du mariage. Ah, on a du mérite à rester une femme honnête avec vous.
Allons bon, voilà autre chose.
Ah, ça, elle a raison.
Oh, fiche-moi la paix, je t'en prie, tais-toi. Si tu t'en mêles aussi.
La femme est faite pour l'âme, comme le pommier pour la pomme. Cette vérité, tout le monde l'a constaté depuis l'Antiquité. La femme à l'homme s'accroche, comme la moule sur la roche. C'est pourquoi une femme qui n'a pas d'amant est comme une mouche sans dents.
Bon, on a entendu le quatuor Maris et Femmes, Anne Kessler, Florence Viala, Michel Villermoz et Jérôme Pouli. Et puis là, à l'instant, Laurent Lafitte qui pousse quelques chansonnettes en dehors d'être le tenancier de cette Hôtel du Libre-Échange, mise en scène par Isabelle Nantier à la Comédie Française. Fabienne Pascaud, pour commencer.
Ah, moi, j'ai beaucoup aimé ce spectacle qui m'a ravie, enchantée, parce que d'habitude, on peut monter Phédo, c'était assez à la mode quand Alain Françon s'y est attaqué, entre autres, de le monter de manière assez noire, assez sordide, pour montrer tout ce que ça révélait de férocité dans le couple, dans la société.
Mais et c'était là, bien, Françon aussi.
Oui, c'était bien, mais c'est un peu facile, si vous voulez, je trouve, de monter Phédo
bon
comme ça.
Là,
ce qu'il y a de bien, c'est que c'est montré, Isabelle Nanty a monté ça avec presque innocence, esprit d'enfance. Il y a presque un côté tchékovien chez ces personnages qui n'arrivent jamais à leur but, jamais à être satisfaits, jamais à s'aimer. On a vu pourtant que leur exigence est grande, hein. C'est rare au début de la pièce, à la fin du 19e siècle, de voir une femme qui ose dire que son mari la délaisse et ne la satisfait pas sexuellement. Hein, c'est tout le nerf de la guerre. Et justement, l'intuition géniale de Phédo, avant Freud, avant tout ça, c'est de montrer comme l'insatisfaction, le désir qui n'arrive pas à aboutir, conduit les personnages à la folie, à une espèce d'hystérie, et à s'exprimer finalement, tout à coup, tout explose en eux, ils osent se dire des choses infernales, ou alors le langage tord le corps, c'est le cas d'un personnage, d'un ami de la pièce, génialement interprété par Christian Eck, qui est sourd, pas tout le temps, mais de temps en temps.
Quand il bègue.
Oui, bègue quand il pleut. Voilà, je me mélange. Donc, on voit que le langage chez Phédo suit génialement les courbes de l'inconscient, des désirs qui s'évaporent, et ça, c'est magnifiquement joué. Et Anne Kessler et Christian Eck composent des personnages qui sont vraiment tyrannisés dans leur corps, par leur frustration même. Et c'est pour ça que j'ai trouvé la mise en scène d'Isabelle Nanty à la fois passionnante, pas hystérique, pas folle, et elle montre plutôt les personnages comme des grands enfants qui n'arrivent pas à vivre leurs désirs. Et j'ai trouvé que dans Villermoz, par exemple, est formidable. Ils sont tous excellemment dirigés, et j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce spectacle plutôt tendre qu'amer. C'est ce qui m'a plu.
René Solis, votre regard sur cet hôtel du libre-échange.
Bon, alors j'ai vu un petit peu moins de finesse que vous, Fabienne, de côté de Tchékovien.
J'ai oublié de parler des costumes et des décors magnifiques.
Ah non, on pourra dire de moi. Moi, on y prend beaucoup de plaisir, je veux dire, indiscutablement, mais il y a quand même un côté grosse Bertha dans la mise en scène. C'est pas du tout...
Pas du tout.
Ça y va à fond. Non, ça y va à fond. Ils y vont à fond.
Moderato cantabile.
Ils y vont à fond et ils y vont très bien à fond. Je veux dire, moi, je me suis régalé du bureau d'acteurs. Ils sont absolument déchaînés, comme rarement. Hein, et ils sont tous plutôt très bons, avec des choses... Vous en parliez, hein, entre Christian Eck, Anne Kessler, qui est complètement incroyable, une espèce de poupée mécanique hystérique, enfin, improbable. Mais ils sont tous vraiment très, très bien. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, j'ai toujours beaucoup aimé Michel Villermoz. Et justement, je trouve que là-dedans, il est un de ceux qui donne quand même un peu plus que ça, un peu plus que le côté...
Il est triste.
Oui, il y a une tristesse en lui. Et cette tristesse, du coup, elle est très belle, parce que justement, elle est contrastée avec le reste, avec l'atmosphère. C'est une atmosphère qui est extrêmement burlesque, on va dire. Ils y vont à fond, quand même. Ça y va, ça tire fort, quoi.
Il y a toujours le contre-coup, pour moi.
Mais il y a quand même ces moments-là, et en particulier lui, qui tient une autre partition, finalement, quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus mélancolique, et qui est très beau. Et du coup, alors effectivement, et là, je vous rejoins tout à fait, Fabienne. On entend très très bien l'incroyable génie de Phédo pour démonter tout ça, et en particulier toute cette histoire de frustration, de l'hystérie, enfin tous ces mécanismes-là, avec en plus ce qu'on entend aussi, bon, très bien, mais c'est la dimension, la construction totalement cauchemardesque du vaudeville, qui est présente chez Phédo, qui était déjà aussi très présente chez Labiche, hein, et on voit très bien comment c'est vraiment les précurseurs aussi de tout le théâtre de l'absurde. C'est-à-dire qu'on se retrouve là devant une modernité, quelque chose qui annonce à la fois ce que vous disiez, c'est-à-dire la psychanalyse et tous ces grands courants, mais aussi une modernité du théâtre. Et on peut dire que de ce point de vue-là, oui, Phédo reste un auteur très moderne, très contemporain.
Comienne.
Rien à dire.
Ah bon, bah, rien à dire, non, mais parce que c'est vrai s'ils y vont à fond, c'est quand même qu'il y a un texte absolument génial.
Oui.
Je parlais de cette mécanique, mais c'est vrai que ça va très très loin dans les enchevêtrements, parce qu'il s'agit que de ça. Il s'agit de prendre des personnages, de tout mélanger, et chacun va avoir une connexion avec un autre d'une façon sans cesse renouvelée. Et donc, il faut dire que la première partie se passe chez les Pinglet, et puis la deuxième partie dans cet hôtel, et la troisième partie, on est de retour dans le salon des Pinglet. Et d'ailleurs, bon, il y a ces intermèdes musicaux qui sont plutôt sympathiques, parce qu'on entend, en tout cas, les textes de ces chansons sont quand même assez délicieux. Je ne sais pas d'où ils viennent, d'ailleurs. J'aurais peut-être dû regarder le dossier de presse attentivement.
Il y en a qu'on connaît.
Oui, enfin, j'imagine que c'est à peu près contemporain. Mais c'est vrai que la date de création, 1894, on dit que l'invention de la psychanalyse, c'est plutôt 1895, il n'est pas en retard, en effet Feydeau. Et c'est vraiment la question, Louis, de la frustration et de la pulsion qui est vraiment la mécanique de cette pièce. C'est la pulsion, c'est vraiment ça qui est très frappant. Et quand vous parlez de modernité, c'est assez sidérant. Et c'est vrai que bon, moi, si j'ai un très bon souvenir de la mise en scène de Françon il y a quelques années à La Colline, parce que justement, malgré tout, il ne pouvait pas quand même complètement esquiver la comédie. Et je trouvais que c'était bien que Françon se coltine cette couleur-là ou cette note-là. Là, avec Isabelle Nanty, on a peut-être... un curseur qui est déplacé, mais il y a quand même tout est là, malgré tout. Et chez Françon, tout était là, et chez Isabelle Nanty, tout est là, mais de façon un peu différente. Il faut dire que le spectacle rencontre, et c'est bien normal, un immense succès. Moi, j'ai vu des salles debout pour cet hôtel du libre-échange. Fabienne ?
Oui, c'est mérité. Et l'intéressant aussi dans l'espace scénique d'Isabelle Nanty, c'est qu'on voit tout, on les voit monter dans l'escalier.
Scénographie et costumes, Christian Lacroix.
Les costumes sont vraiment magnifiques.
Ben oui, c'est beau.
L'espace est très joliment fait aussi. Et on voit l'escalier, on voit tout cet hôtel sordide du libre-échange où les gens montent, descendent. Donc on participe. Moi, je n'avais jamais vu à vue que dans les précédentes mises en scène l'escalier. Et c'est vrai que ça crée un plaisir, on est dedans. Quoi.
Il me semble
on
qu'il
attend,
y était chez Françon, l'escalier. Ah, il faut qu'on recherche des images. Hein.
Je n'ai pas de souvenirs.
Ah oui, c'est vrai. Bon, on va chercher des vieilles photos de plateau, alors peut-être. On n'a pas parlé toute la distribution, vous avez cité, et c'est tout à fait normal, Christian Eck. Moi, j'avais un petit peu peur, vous voyez, par rapport à Christian Eck, parce que le fil et la patte, quand j'avais revu le spectacle, je me suis dit, bon, quand même, il en fait beaucoup, beaucoup.
Mais là aussi, il en fait énormément.
Tant mieux s'il y en a qui sont capables d'en faire trop.
Il m'a à nouveau cueilli parce que c'est absolument extraordinaire. Il a c'est un danseur, Christian Eck aussi. C'est pas seulement un comédien. Il a une science du corps, du burlesque du corps qui est absolument irrésistible.
Non, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est une des réussites du spectacle, c'est qu'ils ont tous. C'est effectivement, il y a des numéros d'acteurs, il y a quelque chose comme ça de très outré dans le jeu, et en même temps, il y a une présence des corps, et donc ils font des choses intéressantes avec.
Bien sûr.
Ce que fait Anne Kessler sa composition de poupée démantibulée, comme ça, elle est très inquiétante.
Ah,
en fait.
elle est flippante.
Parce qu'elle est.
Sa voix.
Sa voix, le personnage de. Totalement folle, enfin, elle est vertigineuse et elle a une présence comme ça. Et effectivement, tous, il y a cette force des corps qui fait que voilà, c'est un spectacle qui n'est pas seulement une pochade ou quelque chose de réussi comme ça parce qu'il y a des beaux costumes. Il y a un engagement physique des acteurs qui fait que ça marche bien, même si. Et à mon goût, il y a de temps en temps des choses qui sont peut-être un peu trop boum boum boum, un peu appuyées, et que voilà, on peut imaginer d'autres façons de faire. Mais c'est très bien que, comme vous le disiez, que on puisse monter Feydeau de façon très différente, et qu'à chaque fois on se rende compte effectivement de ce qu'on disait sur la formidable modernité, force destructive qu'il y a dans ce théâtre.
Oui, et puis qui offre tellement de niveaux de lecture qui peut plaire à un public extrêmement large, parce que chacun y verra d'abord des échos sans doute à soi, à ses parents, aux autres, etc. Mais on peut y entrer à différents niveaux.
Une vraie libération, parce que la manière dont ils sont méchants et dont ils osent dire des choses horribles, quand le pauvre cousin débarque et qui disent, voyant qu'il arrive avec ses filles, que non, ils ne veulent pas le recevoir parce qu'ils sont trop nombreux, que c'est pas possible. Il faut oser,
c'est
quoi,
c'est
ça.
C'est cruel. C'est très cruel.
Ou quand le mari dit à sa femme, qui explique à quel point sa femme est insupportable, il faut oser le dire aussi.
Ouais.
Et ça, c'est une férocité libératoire.
Absolument. Cet hôtel du libre-échange de Georges Feydeau, mis en scène par Isabelle Nanty, il est présenté pour l'heure jusqu'au 25 juillet à la Comédie-Française. Nul doute qu'on le retrouvera dans la saison prochaine. Ça doit être le cas d'ailleurs la saison prochaine. J'ai plus le programme 17-18 en tête. Peut-être quelques mots encore d'ailleurs concernant la Comédie-Française et notamment Michel Huillermoz pour dire que Le Cyrano, mis en scène par Denis Podalydès, va être au cinéma. C'est les nouvelles politiques aussi de la Comédie française, partagée avec le plus grand nombre à travers le Pathé Live, diffusion
oui,
en salle.
C'est une opération que Eric Ruff a menée. Déjà, il y avait le Misanthrope. Donc,
et Roméo et Juliette, c'était
voilà,
le premier.
Voilà, Roméo et Juliette. Et ça marche mieux que l'opéra, paraît-il, puisque même pour le Misanthrope, il y a eu en opération live 19 000 spectateurs, ce qui est énorme quand même, dans 300 salles de France. Et là, pour un prix de place qui est finalement modique par rapport aux prix normaux, c'est 24 euros. Il y a un documentaire, il y a un entracte et on peut vivre en direct avec la Comédie française.
Oui, c'est en
la
direct, hein, c'est très important de le préciser.
Oui, en direct, en live. Donc on peut avoir peur que le comédien tombe par terre.
Pas tout à fait la même, ouais, c'est pas la voilà. même chose, mais le direct apporte vraiment une dimension
exactement, et ça c'est le 4 juillet.
Le 4 juillet pour Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, mise en scène, Denis Podalydès avec Michel Huillermoz dans le rôle-titre, puisque comme on le sait, ces athlètes de haut niveau passent d'un rôle à un autre, d'un soir à un autre, parfois dans la même journée. En tout cas, voilà une autre façon de se rendre, si je puis dire, à la Comédie française à travers ces 300 salles de cinéma le 4 juillet.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
À suivre dans La Dispute, Thomas Ostermeyer, Hilotopie, Boris Vian et Christophe Blandin Estourné. Avant cela, nous sommes attendus par Xavier Martinet dans le Petit Salon. Bonsoir, cher Xavier Martinet.
Bonsoir, Arnaud.
Alors, ce soir, question technique, mais question importante qui concerne les centres dramatiques nationaux de leur petit nom, les CDN.
Tout à fait, dont on fête le 70e anniversaire cette année. Ils sont 38 ou 39, je crois, à ne pas confondre avec les 6 théâtres nationaux. Et ces CDN, donc centres dramatiques nationaux, sont un des fleurons de la décentralisation culturelle. Mais c'est un anniversaire avec une légère fausse note, puisqu'une menace extrêmement lourde pèse sur 15 d'entre eux, ce sont les mots extrêmement lourds de Catherine Marnas, la directrice du Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine, dont le mandat vient d'être renouvelé pour 4 ans en janvier. Mais ce TNBA, des spectacles sont menacés, 2 spectacles, notamment un de Kader Atou et un du groupe Apache. Et puis le théâtre pourrait même fermer pendant 6 mois, continue Catherine Marnas. Le TNBA n'est pas seul, donc, puisque c'est en janvier que 3 syndicats, la CGT, FO, CFDT, des syndicats d'artistes-interprètes ont assigné les 15, en tout cas 15 d'entre eux, 15 CDN, en leur réclamant 8 millions d'euros. 8 millions pourquoi ? Pour compenser le non-respect d'un accord de 2003 sur, et c'est là que c'est technique, le volume d'emploi des artistes-interprètes au sein des théâtres, qui fait partie de leur mission publique. Un accord en fait simple à comprendre. D'abord, c'est le premier qui existait depuis 1975, donc cet accord de 2003, et il expliquait déjà à l'époque vouloir tenir compte, je le cite, d'un paysage théâtral qui a considérablement changé ces 25 dernières années. Plus de compagnies indépendantes, plus de troupes durables, et une extension des missions extérieures des centres dramatiques nationaux. Du coup, cet accord prévoyait que 40% du budget artistique et 25% du volume d'emploi comparé aux emplois administratifs sur 3 ans, un peu technique, devaient être employés pour les emplois artistiques. Alors pourquoi nous assignons le syndicat et 15 CDN, expliqué en janvier le site SFA-CGT. Selon eux, en fait, des centaines de milliers d'heures dues n'ont pas été pourvues, soit en gros un an de travail pour 375 personnes. C'est donc un drame humain. Le ton est aussi monté, il est à la polémique. Les déclarations de portée générale du syndicat, le syndicat des employeurs culturels, ne convainquent pas, venant, je cite la CGT, d'une organisation dont certains membres sont des artistes dirigeants des entreprises chargés de missions d'intérêt général. On serait en droit d'attendre moins de de traficotage et un peu plus de rigueur intellectuelle de part et d'autre. Donc c'est un peu l'hyperbole, catastrophe de l'assignation pour le Syndéac, qui parle d'un demi ou la moitié ou bien des deux tiers du budget artistique des CDN qui seraient amputés, quand la CGT rétorque, il n'y a pas de théâtre sans comédiens. Alors dans certains théâtres, c'est vrai que le ratio des emplois artistiques par rapport aux autres serait tombé à 5 ou 7%. En tout cas, le combat politique n'est jamais loin, puisque la politique d'austérité, je cite la CGT, des patrons du spectacle est dénoncée. Globalement, il semble donc qu'il y ait d'abord un passif réel, ensuite que le climat politique inquiète, notamment la possibilité d'embaucher des bénévoles dans les productions qui a été entrouverte par La République En Marche, et troisièmement, que la réponse du Syndéac, entre déclaration de principe et argument d'inapplicabilité, a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. N'empêche que la question de fond reste posée, c'est l'évolution de l'emploi artistique et le rôle des centres dramatiques nationaux vis-à-vis de ces évolutions. À part le TNP de Villeurbanne, aucun emploi de troupe permanente, même si c'est à discuter avec ce qui se passe à Montpellier. En tout cas, ce mouvement s'accentue avec la politique d'appel aux troupes extérieures. Certains théâtres ont quand même un peu progressé ces dernières années, disait la CGT. Certains ont augmenté de 5,5% le volume d'emploi artistique, mais la tendance constatée il y a 13 ans reste la même, disait déjà Télérama en janvier dans une interview avec le Syndéac. Les répertoires contemporains, l'évolution des écritures ont eu pour effet de faire diminuer les distributions d'artistes au plateau. Et puis pour terminer, dit Télérama, une autre difficulté tient au fait que le texte définit l'artistique comme le seul interprétariat. C'est pour ça que certains le revendiquent, d'autres directeurs de théâtre veulent étendre le statut par exemple aux scénographes, d'autres veulent encore étendre les heures de travail, mais en tout cas la situation est pour le moment bloquée avant novembre. La CGT et le Syndéac en appellent tous les deux au gouvernement et à l'État, sachant que l'État n'a pas signé en 2003, il n'a pas été la tutelle de cet accord, il ne l'a pas signé. Quant à l'État justement aujourd'hui et à Françoise Nyssen, donc la ministre de la Culture, peut-être n'est-ce pas un hasard que son premier déplacement le 1er juin en tant que ministre de la Culture se soit fait au Printemps des Comédiens de Montpellier. Là, il n'a pas été question de cette affaire, il en sera peut-être question à Avignon où elle devra aller de toute façon. Françoise Nyssen incarne un espoir que les acteurs du monde de la culture n'attendaient plus, déclarait le site CNEWeb à cette occasion. Ce dossier sera donc l'occasion de tester sa solidité. Alors voilà, ces 25 dernières années de grosses évolutions, c'est presque 40 maintenant. Est-ce que le paysage a tant changé que cela ?
Ah oui, parce que là, il faudrait quand même dire les choses. Qui de la poule ou de l'œuf, si on baisse les subventions globales, comment on fait avec la marge artistique ? Alors, une chose que vous avez soulignée, l'emploi artistique ne concerne que les interprètes. Effectivement, quid des scénographes, des créateurs lumière, il y a beaucoup de métiers artistiques dans le monde théâtral. Le dossier est un peu compliqué, un peu technique, mais c'est extrêmement important, René Solis.
Oui, c'est à la fois très technique, comme vous le rappeliez, en même temps c'est tout à fait passionnant, parce que c'est une vieille histoire. Vous rappeliez qu'il y a 70 ans, en fait, les 70 ans de la création des CDN. Rappelez qu'au départ, les CDN, c'est quoi ? C'est des troupes d'acteurs. Donc on est parti de ça, et au tout début, il y avait pas ce genre de questions, puisque 80%, on sait pas, des budgets étaient pour faire du théâtre. Et puis, peu à peu, on a construit des théâtres, on a installé au départ des troupes, et en fait, à mesure qu'on construisait des théâtres, et même si les crédits suivaient plus ou moins, évidemment, il fallait faire fonctionner ces théâtres, et au fil des ans, et ça a été une longue évolution, en fait, on s'est rendu compte que la machinerie nécessaire, c'est-à-dire tous les emplois administratifs, prenaient beaucoup plus de place, jusqu'à occuper effectivement 60, 70, 80% du budget, alors qu'au départ, c'était pratiquement zéro. Et donc, il y a eu un développement du nombre d'emplois, et qui sont des emplois culturels, et une baisse de l'emploi artistique. Et donc, cette histoire-là, elle est très ancienne. On est arrivé jusqu'à des points, effectivement, où les théâtres disaient que certains théâtres disaient, certains centres dramatiques, qu'une fois qu'ils avaient tout payé, c'est-à-dire les frais de secrétariat, de chauffage, d'entretien, de gardiennage, et il y en a beaucoup, d'entretien des bâtiments, etc., et quelquefois de techniciens quand même de plateau à temps plein, il n'y a pas que des intermittents, il y a aussi des emplois fixes, et ben ils n'avaient carrément plus rien pour
faire de la création,
pour faire du théâtre. Donc on est arrivé jusqu'à ce degré d'absurdité. Alors ensuite, comme je le disais, l'œuf et la poule, c'est-à-dire que les directeurs de théâtre, ils n'ont pas des moyens, ils s'en plaignent assez extensibles. Donc il faut qu'ils suppriment l'un pour remettre à l'autre. Ils ont pas le choix. Et donc on est devant
et comme les dotations plutôt diminuent qu'augmentent.
Les dotations diminuent plutôt qu'augmentent. Alors l'histoire de la CGT, de la situation, a le mérite, si on peut dire, de mettre les pieds dans le plat, donc de reposer le problème en disant il y a effectivement un problème, mais à moins d'une augmentation importante des crédits, et je suis pas certain que Françoise Dyssen aura de quoi mener une politique comme ça de nouveau grand développement des crédits, la question reste entière. Alors bon.
Il y a quand même la question du répertoire qui est posée aussi.
Oui, alors bien sûr, parce qu'on peut faire tourner des...
Elle est connexe. Moi, je crois qu'on écrit... si on voit tant de monologues ou de seuls en scène, etc., c'est aussi parce qu'on n'a pas les moyens de faire produire quelque chose avec 15 interprètes sur le plateau. Ouais. Enfin, c'est là aussi, l'œuf ou la poule, on y est encore. Fabienne Pascaud.
Oui, moi je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire René. Alors effectivement, dans les centres dramatiques, il y a peut-être des emplois administratifs qui se sont multipliés peut-être excessivement. Certes, on a besoin de gens pour la communication, pour faire tourner les spectacles, pour plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a comme ça, on est parfois troublé de voir la communication très importante, la place de la communication, tous ces théâtres qui changent de logo tout le temps. Par exemple, un directeur nouveau arrive et hop, je te change le logo. Bon, ça, c'est peut-être des dépenses qui pourraient s'économiser, ils pourraient mutualiser des choses. Donc, moi aussi, je mets les pieds dans le plat, mais il y a peut-être des économies à faire pour que l'artistique a subvention égale, parce qu'il faut pas rêver. Françoise Nyssen, je lui souhaite d'augmenter son budget, mais c'est s'il ne baisse pas déjà comme souvent chez ses devancières, ça serait formidable. Donc il faut trouver le moyen aussi de faire mieux jouer les budgets et les financements pour l'artistique.
Et Martinet ?
Oui, en dehors de la question financière, vous l'avez abordé Arnaud, je suis allé jeter un coup d'œil du côté des textes officiels. Effectivement, concernant le statut des personnes qu'on considère comme artistes-interprètes donc au sein des centres dramatiques nationaux, il y a les artistes dramatiques, donc on comprend bien les comédiens, les artistes chorégraphiques, les artistes lyriques, les musiciens, les artistes de cirque, variété et marionnettistes. Et c'est vrai qu'il y a une certaine pression pour qu'on intègre des professions qui sont connexes et qui sont évidemment liées à un ensemble de productions nouvelles, alors qu'elles étaient très segmentées, comme c'est le cas encore, par exemple, à la Comédie Française, Théâtre National, pour des productions plutôt du grand répertoire et du répertoire classique. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le ministère, pour l'instant, j'ai l'impression, n'a rien dit sur cette question, mais que dans les textes, on peut remarquer quand même une évolution de la mission principale des CDN, puisqu'au départ, il a jamais été question d'entretenir une troupe permanente, sauf qu'il y avait une ambiguïté quand même jusque dans les années 90, c'était le cas pour les 20 ans du CDN d'Orléans. La DRAC disait encore... troupe permanente, c'est la mission prioritaire. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les textes, de toute façon, pour les CDN, c'est que la mission principale, c'est la création culturelle, ce qui est bien plus vaste que l'entretien d'une seule troupe. On peut faire appel à de multiples troupes, et c'est ce que disent de toute façon les directeurs de théâtre. Aujourd'hui, ils essayent de faire fonctionner au maximum les collaborations, les transferts de troupes et de textes.
Voilà. Encore faut-il, pour créer, avoir l'argent pour le faire. Bon, de toute façon, le dossier ne sera pas clos tout à fait demain. Nous suivrons cette affaire. Allez, quelques recommandations au mi-temps de cette dernière dispute spectacle vivant de la saison. Tiens, René Solis, vous nous emmenez sur la route, sur les routes avec des gens que j'aime bien aussi. C'est Ilotopie.
Oui, alors c'est vraiment une compagnie historique du théâtre de rue. Ils ont plus de 30 ans d'existence. Ils sont toujours installés depuis 30 ans à Port-Saint-Louis du Rhône.
Au bout du bout. Au bout de la Camargue. Bout,
absolument. La Camargue est juste en face. En fait, ouais. C'est pas ouais. La Camargue. Ouais, ouais. Et il faut dire aussi que c'est des artistes qui tournent énormément dans le monde entier. C'est incroyable. Ça fait partie, je pense, des troupes qui ils ont sillonné tous les continents et ils continuent à le faire avec des productions. Et c'est aussi une troupe de théâtre de rue qui continue à créer des spectacles, mais qui fonctionne aussi avec un répertoire. Mmh. Donc, il y a certains de leurs spectacles qui tournent depuis 20 ans, 25 ans et qui sont, d'ailleurs, c'est là où on se rend compte de la force artistique, parce qu'il y a toujours une espèce de d'évidence esthétique, artistique et même politique de leur spectacle qui est voilà très frappant. Alors, j'ai vu, je vais faire assez vite, mais il se trouve que à Calais au mois de mai pour le week-end de l'Ascension, la ville de Calais avait invité Ilotopie pendant 4 jours avec plusieurs dizaines de propositions. Alors il y a des toutes petites choses, des performances, mais il y avait aussi beaucoup de leurs grands classiques, Les gens de couleur, La mousse en cage. Enfin, pour ceux qui ont vu Ilotopie, c'est tout ça, c'est des spectacles presque un peu mythiques comme ça. Et puis il y avait aussi des productions beaucoup plus récentes, et donc il y en a on peut voir Ilotopie tout cet été. Il y a des spectacles qui tournent, et parmi ces spectacles, il y en a deux dont je voudrais parler. Il y en a un qu'on pourra voir à Aurillac au mois d'août, qui s'appelle La recette des corps perdus. Alors, La recette des corps perdus, c'est un spectacle qui demande une énorme préparation, puisque il s'agit de transformer les comédiens en corps à manger, puisque c'est un spectacle qui est basé sur la dévoration des acteurs par les spectateurs. Et donc, il y a tout un côté culinaire de la chose, c'est-à-dire que les coulisses dans lesquelles ils se préparent et mettent des costumes, les costumes qu'ils mettent sont des costumes de nourriture. Avec ils se refont des squelettes et des organes qui sont comestibles. Et ils débarquent. Alors, je vous imaginez le temps que ça peut prendre pour harnacher les acteurs. Et donc voilà. Et donc le principe, c'est que les spectateurs, petit à petit, vont dévorer les acteurs. Donc c'est un vrai buffet. Alors à chaque fois, ils prévoient un menu différent. Alors en Espagne, par exemple, il y avait beaucoup de jambon quand ils ont fait leur spectacle. Ils disent qu'en France, c'est plus compliqué parce que le jambon, ça peut créer des difficultés. Et donc, à chaque fois, ils ont. Et donc, on mange les acteurs. Alors, au départ, les spectateurs sont très réticents. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas du tout évident sur cette. Et puis, petit à petit, il y a une espèce de certains se lâchent. Et quand ils se lâchent, ça peut être. C'est la ruée
sur l'effet d'entraînement.
Sur les corps.
Ah, en fait, les foules ne sont pas belles à voir.
Et ça se termine par l'évacuation des dépouilles sanguinolentes des acteurs qui ont été entièrement dévorés. Voilà. C'est très beau. Voilà. Et ça donne une idée aussi de la
capacité. Vous avez mangé un peu, vous,
j'en ai mangé un peu, oui. Mais je me suis pas rué dessus, mais oui, j'en ai mangé. Donc ça, c'est un des spectacles.
24-25 août à Aurillac.
À Aurillac. Et puis, il y en a un autre qui est plus classique, qui est celui...
Foot Bassin,
qui est le spectacle qui est donné... alors, sur l'eau, Ilotopie a beaucoup joué avec le feu, l'eau, enfin, tous les éléments. Et ça, c'est un défilé onirique, on va dire, de nuit sur l'eau, avec une sorte de défilé de il y a des barques, si on veut, mais en fait il y a comment décrire ça, ce serait à la fois Fellini et Jodorowsky en ballet aquatique, quelque chose comme
pas
ça
mal.
Et c'est absolument magnifique. Alors ça, c'est incroyablement beau, avec de la grande musique, avec des images complètement incongrues. Donc il y a des, je sais pas, une Fiat 500 qui traîne une caravane. Il y a voilà, il y a des gens qui passent. Il y a comme ça une espèce. Et puis il y a aussi quand même au passage des gens en train de se noyer. Et on comprend assez vite que oui, c'est ils sont familiers, ces corps en train de se noyer. Donc il y a une dimension à la fois très ludique et très belle, et en même temps il y a des tas de, comme toujours dans les spectacles d'Utopie, il y a beaucoup de niveaux possibles. Il y a une force conceptuelle très grande. Et voilà, donc c'est une compagnie exemplaire, hein, d'inventivité, de longévité, de pertinence. Moi, je suis à chaque fois fan d'Utopie.
C'est toujours Bruno Schneeblin qui est à la direction artistique de cette si belle compagnie. Alors, notamment, ce Footbassin sera au Royaume-Uni, ce sera en Autriche. Et pour plus près de nous, à Caen, le 2 septembre, à l'occasion d'éclat de rue. Et puis sinon, vous renseignez sur Ilotopie, qui joue toujours quelque chose près de chez vous.
Oui, on peut aller alors sur le site de la compagnie, on trouve toujours. Alors, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez voir un spectacle d'Ilotopie.
Voilà, amis qui nous écoutez en Australie, Ilotopie arrive.
alors beaucoup plus près en tout cas de ce studio, le théâtre de la Huchette, pour l'écume des jours, Fabienne Pascaud.
Oui, c'est un très joli spectacle, cette écume des jours. Franck Desmet, qui est le nouveau patron, c'est un acteur, mais il dirige aussi. Vous savez qu'à la Huchette, ce sont les comédiens, les sociétaires de la Huchette qui élisent leur directeur artistique, leur patron, et c'est Franck Desmet, qu'on pourra voir dans le off à Avignon, d'ailleurs, cet été, qui dirige cette maison et qui, chaque fois, en fin d'année, recours souvent à un spectacle musical après les classiques Cantatrice chauve etc. et Leçons du Ce cher Ionesco qui y est joué depuis 50 ans. Et là, il a confié à de jeunes comédiens que je ne connaissais pas, à une jeune metteuse en scène qui s'appelle Sandrine Mollard et à Gilles-Vincent Caps qui est musicien.
Sandrine Mollaro, si je peux me permettre.
Ben vous voyez, je dis une bêtise, Mollaro. Et de réfléchir autour d'un spectacle autour de l'écume des jours. Et ça a donné ce spectacle plein de charme où trois acteurs jouent à eux trois, tous les personnages de l'écume des jours, qu'on avait vu, Michel Gondry en avait tiré un film en 2013 que moi, personnellement, j'avais pas beaucoup aimé avec Audrey Toutou et qui c'était
Vous l'avez appelé Audrey Toutou ou c'est... Non
Romain Duris,
absolument. C'était voilà. Pas le plus grand film oui, 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 oui. Du non, 21e c'était pas le siècle. Film du siècle.
Et là, finalement, on retrouve beaucoup mieux le génie de ce texte mi-fantastique, mi-crépusculaire, que je ne vais pas raconter, mais un tout petit peu, qui raconte les amours hein, fantastiques d'un jeune Colin et de sa Chloé, qui est à la fois une jeune fille ravissante, une héroïne un peu à la Duke Ellington, puisqu'il se rencontre sur cette musique de jazz qui sert de fond sonore à tout le spectacle. Un roman qui a été écrit en 1947, qui n'a pas marché à l'époque, mais qui raconte toute la France existentialiste de l'après-guerre et qui est plein de fantaisie, d'humour et en même temps de désespérance et de noirceur sur la société de l'époque, le tout avec un sens de l'absurde. Et c'est joué, les comédiens sont à la fois chanteurs, musiciens, acteurs, c'est plein de charme et ça raconte admirablement le roman. Je trouve.
Bon, bah alors il faut aller à la Huchette pour découvrir cette version de l'écume des jours, mise en scène par Sandrine Mollaro et Gilles-Vincent Caps. Et puis une petite annonce quand même pour vous dire que ce jeudi 29 juin, France Culture vous propose une journée spéciale intitulée très simplement « Pour le livre ». Donc il y aura plusieurs émissions de la chaîne qui auront lieu à la librairie de Paris, place de Clichy, à la Grande Table, avec Olivia Gesbert, en direct à midi, le Grain à Moudre avec Ping Pong, en direct de 18h20 et donc jusqu'à 20h, mais aussi la dispute exceptionnellement enregistrée de 14h à 15h, avec pas moins de 5 critiques pour cette émission spéciale et cette dernière émission consacrée à la littérature cette saison. Il y aura avec nous Raphaël Léris, Alexandra Schwarzbrod, Elisabeth Philippe, Grégoire Le Ménager et Philippe Chevillier. Donc on vous attend jeudi à la librairie de Paris pour la dispute. C'est à 14h et ça commence dès midi avec la Grande Table.
France Culture,
la dispute,
Arnaud Laporte.
Et suite de cette dispute avec le spectacle le plus couru du Festival d'Avignon 2015, le temps passe, hein, Richard III de Shakespeare, mise en scène Thomas Ostermeyer avec Lars Eidinger dans le rôle titre. Je me lancerai pas dans le résumé de la pièce, je vais pas vous raconter l'histoire de la guerre des deux roses, ce serait un petit peu long. Rappelons tout de même qu'on voit au cours de cette pièce Richard s'ouvrir un chemin vers le trône en assassinant frères, neveux, femmes, enfin tout ce qui serait sur sa route.
Aber seid fix mit der Exekution und erbarmungslos. Hört euch nicht an, wie er argumentiert. Clarence ist nämlich redegewandt und könnte Mitleid in euren Herzen wecken, wenn ihr auf ihn achtet.
Keine Sorge, mein Herr, wir werden da nicht rumstehen und quatschen. Wer redet, tut nichts. Verlass dich drauf, wir gehen dahin, um unsere Hände zu gebrauchen, nicht die Zungen.
Ich mag euch. Na los, an die Arbeit. Na los, macht schon.
Tun wir ja, mein Herr.
I did wrong, first appeared to brawl. But I'm a close man, a villainy, with odd all hands, stalling false or fully ridden, see the same, the most of Lady Devil.
I'm a fucking walking paradox. No, I'm not. Threesomes with a fucking triceratops. Reptar, rapping as I'm walking death. Rock stars wearing synthetic twigs made of endwalls, dreadlocks, bedrock. Harder than a motherfucking Flintstone. Make crack rocks out of stealing your fish bones. Swallow the cinnamon, I'm a scribbler sitting shit. My shit is telling me that she's freaking intricate with me. Fuck the fame and all the hype, G. I just want to know if my father would ever like me. But I don't give a fuck, he's probably just like this motherfucking goblin. The devil doesn't wear Prada. I'm clearly in a fucking white tee.
Alors Shakespeare plus Eminem, ça c'est signé Lars Eidinger. René Solis, ce Richard III, vous l'aviez vu à Avignon ?
Oui, 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 je l'avais vu. Et bon, alors on parlait des corps des acteurs.
Bon, ben là.
Alors là, on est dans, en plein dans le sujet. On peut presque dire que le spectacle se résume à ça. Mais c'est au bon sens hein, que je dis ça. C'est-à-dire qu'il y a une performance absolument extraordinaire de Lars Eidinger, incroyable, et qui joue donc ce Richard III. Et c'est vraiment... derrière ça, c'est la fascination du mal, parce que il fait tout pour se rendre absolument insupportable, dégoûtant. Il est ignoble. Il y a un côté vieux dégueulasse, et en même temps le côté de tous les monstres de l'imagerie du cinéma, Igor, le valet de Frankenstein. Enfin, on peut trouver, mais il y a aussi évidemment les salopards du théâtre, Tartuffe. Enfin, et puis il y a littérature, Mr. Hyde. Enfin, il les collectionne absolument tous, et c'est comme s'il les avalait littéralement dans son corps. Et en même temps, ce type qui est absolument ignoble, qui vous crache dessus, il faut d'ailleurs attention au premier rang. Enfin, il est capable de, ouais. On peut s'en prendre un, c'est quand même, et qui est absolument, voilà, dans un numéro de d'avachissement, il se laisse totalement aller. Enfin, il est repoussant. Il est en même temps totalement fascinant, et c'est là-dessus que joue tout le spectacle. Et donc, c'est là où effectivement, Ostermayer, il est bon, parce qu'il prend le plus dérangeant de Richard III, ce qui est quand même, on le sait, cette scène de séduction absolument improbable où sur le cercueil de son mari, il arrive à coucher avec c'est laquelle,
Anne.
Anne et Elisabeth, mais c'est Lady Anne. Et donc cette scène-là, qui est toujours la scène la plus difficile d'une certaine façon,
parce qu'elle est impensable.
Elle est inouïe. C'est de ça qui part, et c'est de cette scène-là qui rejoue presque sans arrêt vis-à-vis des spectateurs, puisque en fait, effectivement, ça marche. Alors ça marche aussi avec le côté DJ et le rock, c'est-à-dire que il nous emballe. C'est-à-dire qu'on est Lady Anne séduit par lui. On est dans un rapport de fascination du spectateur à l'acteur, et donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement réussi. Je dirais que peut-être que c'est tout d'une certaine façon. C'est-à-dire que il faut pas non plus dire que ce Richard III est un spectacle historique d'une portée, d'une complexité folle, et qu'il apporte des éclairages nouveaux sur le texte. C'est vraiment une performance d'acteur poussée à son extrême, remarquablement menée. C'est bien, voilà, c'est très bien. Je pense pas que voilà, on peut pas dire que c'est un spectacle qui prend énormément de risques. Il a un acteur formidable qui est capable de mener ça à bien, il le fait très bien.
Fabienne Pascaud, sur Richard III.
Je suis pas tout à fait d'accord sur le risque, parce que c'est un spectacle très gonflé quand même. Hein. D'abord, il a beaucoup, Mayenburg, qui est son dramaturge, a beaucoup coupé le texte, et il l'a recomposé, et il a réussi, Ostermayer, à faire un spectacle qui est tout à la fois shakespearien et totalement contemporain. Déjà, ça, c'est un exploit. Sa manière de rendre diaboliquement sexy, parce que vous l'avez trouvé repoussant, avachi, mais moi, je l'ai trouvé furieusement séduisant. Et donc, mine de rien, il déplace les frontières du bien et du mal, du laid et du beau, et on assiste à ça, et on est fasciné par ça, comme vous le disiez. Et l'éclairage nouveau que ça peut donner sur Richard III, c'est que la mère de Richard III, qui est jouée par un travesti, parce qu'il ose tout, il ose tout, Ostermayer, le travestissement, les enfants qui sont assassinés, qui sont des marionnettes, des images de nuages, le rock, les costumes modernes, le noir et blanc, les interpellations de Richard III qui vient sans arrêt interpeller le public, au devant de la salle qui se réallume tout à coup comme chez Brecht, enfin bref. Et le personnage qu'il montre, c'est aussi, comme rarement on l'avait vu, c'est un pauvre gosse qui n'a pas été aimé par sa mère parce qu'il était moche, parce que peut-être il est né avec des dents, parce qu'elle n'a pas supporté sa grossesse, parce que tout de suite elle le hait, parce qu'il ne l'aime pas. Et donc il nous fourgue à la figure, quoi, et aux femmes présentes dans la salle, le manque d'amour apporté à l'enfant. Et en ça, cette quête éperdue d'amour, même la manière qu'il a quand il séduit sur le cercueil de son mari, Lady Anne, de dire « je l'ai eu, je l'ai eu ». Il a eu enfin la femme, quoi. Il est enfin aimé par une femme ou enfin des signes d'amour d'une femme. Et ça, c'est assez bouleversant, ce regard-là sur Richard III. Richard III qui part à la conquête du pouvoir comme Hamlet, mais il part comme Macbeth. Mais il est quand même plus, lui, du côté des princes. C'est plus facile pour lui. Mais il y a toujours cette conquête du pouvoir qui est racontée de manière fantastique, je trouve.
Alors, moi, ce que j'entends dans ce que dit René Solis, c'est qu'effectivement, c'est un spectacle qui se présenterait presque comme un stand-up de Lars Eidinger.
Il y a le micro déjà, il y a tout ça.
Immense interprète, parce que bon, il y a toutes ces parties d'adresse à la salle.
C'est ça, bien sûr.
Et donc, d'ailleurs, je trouve que ça avait plutôt mal déteint sous son interprétation d'Hamlet quand on a pu le revoir à Sceaux, où il avait intégré cette dimension
de. Pourtant, c'était avant Hamlet.
Non, mais comme il continue à le jouer, il a aussi un répertoire à la Schaubühne, quand il l'a repris récemment, après avoir justement créé cette version de Richard III, je trouvais que son Hamlet était trop, justement, dans le jeu avec le public. Il sait tellement bien faire ça, Lars Eidinger, c'est-à-dire qu'il a cette capacité à passer en une fraction de seconde d'un état de jeu à un autre, d'un état de jeu à un état de non-jeu qui est en fait pas du jeu, parce qui est quand même du jeu parce qu'évidemment il joue avec nous. Enfin, il est absolument virtuose, donc ça c'est fascinant et on s'ennuie quand même pas une seconde dans les 2h30 de représentation. Nous qui regardons nos montres, Fabienne Pascoe, là on peut pas dire que ce soit tout à fait le cas. Faut quand même dire que Mayenburg a fait un beau travail, mais que le jeune Shakespeare c'est quand même pas mal non plus. Je parlais de la mécanique de Phédo, mais celle du Richard III de Shakespeare, c'est quand même pas tout à fait rien. Mais là où je vous rejoins aussi, Fabienne Pascoe, c'est qu'on a quand même l'impression que ce qui se déroule sous nos yeux, en vrai, au moment où ça se passe. Enfin, il y a quand même quelque chose du théâtre au présent qui, moi, ne cesse de me fasciner, alors que, bon, évidemment, c'est Richard III et c'est Lancastre et c'est Plantagenet, c'est pas tout à fait d'hier, et pourtant, c'est comme si on assistait à cette conquête sanglante.
Ça, c'est le talent d'Ostermayer, quand même.
Et c'est le talent de son interprète.
Oui, bah, ils ne sont pas trouvés pour rien.
Et c'est aussi ce qui est drôle, c'est que d'une certaine façon, il fait tout ce qu'un acteur ne devrait surtout pas faire sur scène. C'est un catalogue de choses interdites dans les écoles de théâtre. Et il s'amuse beaucoup avec ça, évidemment, parce que du coup, il jongle, il s'amuse à casser tous les codes et à jongler avec.
Il n'arrête pas de guetter, c'est quelque chose dans la salle. Qu'il pourrait utiliser.
Il n'arrête pas, on a l'impression qu'il est capable de tout. Et c'est ça qui est formidable, c'est ça qui fait qu'il y a une attente formidable à son égard. C'est qu'il est réellement capable de tout faire. Donc on est susceptible d'être à tout moment surpris par quelque chose auquel on ne s'attendait pas.
Il a même menacé de mort un soir où j'y étais, quelqu'un qui avait un portable, par exemple, et qui a sonné. Et je crois que la personne en question a eu peur qu'il vienne la tuer.
Ah bah oui.
Il a demandé, il aime bien les téléphones parce que ça lui sert, j'avais vu ça à Avignon aussi. Il était revenu plusieurs fois vers quelqu'un qu'il avait pris en photo alors qu'il jouait nu, en le menaçant aussi de l'attendre à la sortie. Là, aussi quelqu'un dont le téléphone a sonné, il lui a menacé presque pire que de mort, mais enfin, c'est autre chose.
De violer, non ?
Oui. il voulait envoyer un de ses sbires s'occuper de cette personne. Mais dire justement à propos de ses camarades de jeu, qu'il faut quand même vraiment les saluer parce que jouer sur le même plateau que Lars Eidinger,
il
faut qu'il soit extrêmement costaud. Là, j'ai été très épaté de revoir ce spectacle, mais de dire quand même, il faut pouvoir être à niveau. Donc ça, la Schaubühne.
Il y a des bons acteurs et il y a de l'argent pour les payer.
Oui, mais c'est pas le même système. Bon, il faudra faire un petit salon sur le système.
Il y a moins de théâtre, peut-être, à Berlin qu'il y en a à Paris. Il y en a beaucoup, bien sûr.
Mais il y a une vraie troupe.
Eh ben, il y a des troupes partout.
Il y a un répertoire. Et du coup, ça permet de... oui, là, sur la vision de Richard III, peut-être que je vous rejoindrai quand même un peu, René Solis, mais il n'empêche que... C'est vrai que Richard
il lui donne
III,
un sacré coup de gêne, voilà, à Richard III.
Richard III, c'est quand même le graal de tous les comédiens. Et là, avec Lars Eidinger, il a quand même la barre très très haut sur... le souvenir de l'interprétation.
Oui. On a quand même Mariel Garcia Valdez qui était beau comme un dieu, qui était tellement beau. Très beau. Et lui, il est très laid et il est magnifique.
Immenses acteurs de ce niveau-là, effectivement. Voilà, si on en a tous les 20-30 ans, c'est pas mal. Donc là, c'était le cas avec Ariel Garza Valdez, qui reste absolument magnifique acteur.
Dans la mémoire, en tout cas, il était sublime, là.
Ah, je confirme. Bon, pour l'instant, en tout cas, là, nous parlions de ce Richard III de Shakespeare mis en scène par Thomas Ostermeyer. C'est jusqu'au 29 juin à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Et effectivement, il continue à tourner ce spectacle, comme beaucoup d'autres signé Thomas Ostermeyer. Il sera à New York du 11 au 14 octobre, à Istanbul, 17-18 novembre. Avant un retour à Lausanne, au théâtre de Vidi, du 11 au 13 janvier 2018. Et avant de conclure cette émission par un coup de fil, passé à Christophe Blandin-Estourné, le jeu de la dispute. Et Justine Dibling nous a rejoint, comme chaque soir, pour nous rappeler tout d'abord la question du jeu de vendredi soir et nous livrer sa réponse, Justine.
En plus de ses chorégraphies, Wim van de Kibus réalise également des films. Quel est le titre de son film tourné dans la nature corse et les bas-fonds de Bruxelles avec les danseurs de sa compagnie Ultima Vez? Et la réponse était Blush.
Comment vous dites?
Blush.
Blush. Très bien. Ce soir, on reste dans le cinéma, du coup, des invitations pour le Festival international du film de La Rochelle, qui se déroule du 30 juin au 9 juillet, sont à gagner. Quelle est la question?
Quel autre grand festival a lieu à La Rochelle depuis 1984?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Place à présent au coup de fil de la dispute passé par Boris Pinault.
Ce soir, le coup de fil est passé au théâtre de l'Agora, scène nationale d'Évry et de l'Essonne. Christophe Blandin-Estourné, bonsoir.
Bonsoir.
Vous en êtes le directeur depuis 2013. Le théâtre de l'Agora est situé à l'intérieur du centre commercial Évry 2. Il compte deux salles ainsi qu'une galerie d'exposition. Le 15 juin dernier, vous présentiez l'année 2017-2018 de votre théâtre en usant d'une belle comparaison. On peut le lire dans l'édito de la brochure. Cette nouvelle saison sera, je vous cite, un rhizome sinon rien. Qu'est-ce qu'elle dit, cette comparaison de votre projet pour cette nouvelle année ?
Le projet du théâtre de l'Agora, c'est un projet situé, c'est-à-dire que on réfléchit à tous les endroits du projet, que ce soit la programmation, qui est la phase la plus visible, mais aussi tout un travail plus souterrain de relations avec des partenaires territoriaux. Tout cet ensemble-là se pense, se réfléchit en dialogue permanent avec le contexte, c'est-à-dire que le moindre geste, atelier, programmation, parcours de spectateurs, est pensé au regard du contexte particulier qui est le territoire de Grand Paris Sud, c'est-à-dire de Grigny à Corbeil en passant par Évry, Ris-Orangis ou Courcouronnes.
Des artistes sont associés au théâtre de l'Agora pour l'année 2017-2018. Le chorégraphe Abderzak Oumi et sa compagnie Express, le collectif d'artistes Groupe N+1, l'artiste de cirque Chloé Moglia et la jeune marionnettiste Lucille Beaune. Ce sont des associations qui reflètent bien toutes les disciplines qui jalonnent votre saison. Comment est-ce que vous dosez la programmation entre des formes traditionnelles assez populaires et des formes hybrides peut-être moins immédiatement accessibles?
C'est ça l'intérêt du projet situé, c'est de voir comment, au regard du contexte, de la population qui vit ici, on joue à la fois de choses très innovantes ou de choses qui sont aussi en dialogue avec la réalité du territoire. On est face à un territoire où la jeunesse de la population nous oblige, c'est-à-dire qu'avec moins de 30 ans de moyenne d'âge par rapport à la France, ça nous situe plutôt dans des pays comme la l'Algérie ou le Brésil. Donc on a fortement développé toute la programmation jeune public. Ça répond à une demande. De la même manière, la question des cultures urbaines, où on propose avec Abder Zakoumi une modalité un peu différente avec un projet qui s'appelle Made in Ici. C'est une manière de valoriser de jeunes artistes du territoire en les mettant en lien avec des figures légendaires, j'ai presque envie de dire, du hip-hop. Et puis de la même manière, la formidable diversité d'origine des gens qui sont sur ce territoire fait qu'on accueille des projets comme Africolor ou Ethnophonics qui donnent à entendre les musiques du monde. Donc c'est cet ensemble-là qui s'appuie sur les artistes associés. Et puis après, ça va de grands noms comme Anne-Thérèse de Kersmaeker ou François Morel à des artistes qui sont en plein devenir. Lucie Bone, que vous avez cité, mais par exemple, on a été un des premiers lieux à accueillir l'an dernier Sébastien Barillet sur Chunky Charcoal. Donc on alterne entre ces différentes modalités pour essayer d'être en dialogue, ce que j'expliquais, avec le territoire.
L'opération Près de chez vous est reconduite l'année prochaine. Il s'agit, on pourrait dire, d'une version nomade de votre saison. Des spectacles sont envoyés dans des écoles, des structures d'insertion professionnelle, des centres d'hébergement pour personnes âgées, des MJC, entre autres, dans toute l'Essonne. Comment est-ce qu'elle se pense, cette programmation particulière ?
Ce qui est important avec le programme Près de chez vous, c'est de dire que c'est une programmation de plein droit. C'est-à-dire que la plupart des propositions qu'on a en Près de chez vous, qui vont jouer sur tout le territoire d'Essonne, sont aussi à un moment accueillies au théâtre. C'est une manière de dire ce que l'on fait en décentralisation, ce qu'on fait en proximité d'habitants plus empêchés, pour des raisons aussi bien géographiques que symboliques. Ces propositions, elles sont aussi accueillies au théâtre. C'est pas une programmation bis, c'est une programmation de plein droit. Après, dans le cadre d'un projet situé, on fait très attention à répondre aux réalités, aux contraintes. Par exemple, je pense à des projets qu'on développe avec des associations qui notamment travaillent sur l'insertion et particulièrement avec des femmes issues de l'immigration. Ben, le fait de tenir compte d'un certain nombre de contraintes, parce que habitudes culturelles, pratiques familiales, fait qu'on va jouer plutôt 15 ou 16 heures plutôt que d'être sur un horaire classique de spectacle. Donc le Près de chez vous, c'est effectivement la déclinaison de la programmation du théâtre en tenant compte de particularités, soit des particularités d'horaire, parfois des particularités techniques, mais d'être toujours dans ce rapport et de proximité. Et la question des établissements scolaires, qu'on développe pas mal, on a plusieurs propositions qui jouent en établissement scolaire, c'est à la fois une manière d'étendre notre rayon de partenariat, puis c'est aussi une manière de répondre une chose qui ici joue de plein fouet, c'est les conséquences des attentats avec Vigipirate, où nombre d'écoles avec qui on pouvait travailler avant sont empêchées aujourd'hui sur des déplacements. Donc on fait le choix d'aller à l'intérieur des établissements.
Alors on rappelle avant de se quitter, hein, et cela doit être souligné, que le théâtre de l'Agora pratique un tarif unique de 11 euros. Quelques autres noms rapidement que l'on retrouvera au cours de cette saison. Le Raoul Collectif pour Rumeur et Petit Jour, Julie Deliquet pour Vania d'après Tchekhov, le chorégraphe Philippe Jamet, l'artiste de cirque Joanne Le Guilherme, Anne-Laure Liégeois notamment. Merci beaucoup Christophe Blandin-Estournay. On vous souhaite, ainsi qu'à toute votre équipe et au public du théâtre de l'Agora, une excellente saison.
Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions. Vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast. Vous pouvez aussi nous écrire via ce site. Rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée aux séries. Je serai en compagnie d'Iris Bray, Olivier Joyard et Antoine Guillot. À notre affiche, The Handmaid's Tale de Bruce Miller, Manon 20 ans de Jean-Xavier de Lestrade et Glow de Carly Mensch et Liz Flahive. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.